Bonjour, nous sommes le lundi 18 avril, il est 18h et bientôt une minute, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et 18h c'est toujours l'heure de La Relève.
La Relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, La Relève, c'est 30 minutes avec un nouveau talent. Ce soir, on va parler podium ou catwalk si vous préférez, et des apparences qui, c'est bien connu, sont trompeuses. Mon invité est bédéaste. Bonjour Simon Roure.
Bonjour.
Vous êtes bédéaste, vous publiez chez Virage Graphique Monstera, qui n'est pas votre première mais votre deuxième bande dessinée après Orcat, parue en octobre 2023 chez Varum. Je le prononce à l'allemande, je prends du Varum.
On dit comme ça.
On dit comme on veut.
On dit Varum. Enfin, moi j'ai toujours entendu Varum en tout cas.
Alors on dit Varum, qui veut dire pourquoi en allemand si mes souvenirs sont bons.
Exact.
Votre éditeur écrit de Monstera dans le dossier de presse qui l'accompagne que c'est une autofiction percutante. Donc tout est vrai dans ce récit dessiné ?
Alors j'espère que c'est percutant, ça j'en sais rien.
Oui oui c'est percutant, je vous
mais
confirme.
Mais oui, enfin tout n'est pas vrai non. Tout est inspiré de la réalité, mais tout n'est pas vrai. Alors...
Vous avez pris quoi, les faits, vous avez pris les personnages, vous avez pris l'histoire.
Les faits sont vrais, ils ont pas été au même moment, mais moi je trouvais ça très intéressant justement de les mettre, de les lier et de voir comment ils se répondaient en même temps. Et après, il y a eu une bonne part aussi de récits, de romantisation, quoi, pour créer une histoire qui soit un peu intéressante quand même et qu'on s'ennuie pas. Quoi.
Vous avez scénarisé, quoi.
J'ai scénarisé,
vous avez
oui.
Scénarisé, vous avez, oui. Vous avez écrit une histoire. Je redonne le titre, Monstera. Alors moi, je sais ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
ce mystérieux mot ? J'étais assez étonné parce que je pensais que c'était vraiment... une plante que tout le monde connaissait, et en fait je me suis rendu compte que pas du tout.
Alors je crois que tout le monde l'a déjà vu, mais
tout le monde
ne connaît pas forcément son nom.
Ouais, c'est vrai, mais pour moi c'est vraiment la plante que tout le monde a quand on a une plante chez soi. C'est celle la plus connue, la plus aimée je pense aussi. C'est la plante des plantes quoi.
C'est une plante verte, mais qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous ? Pour que vous lui donniez quand même le titre de ce roman graphique, autobiographie percutante, autofiction percutante, je rappelle.
Hein. en fait, c'est surtout qu'est-ce qu'elle symbolise dans l'histoire.
Parce que
moi, j'ai trouvé ce nom-là et j'ai donné cette importance-là dans l'histoire en la faisant. Et c'est vraiment à la fin où je me suis dit, en fait, il y a peut-être un truc à faire par rapport à ça. Mais donc, je dirais pas qu'elle a une signification pour moi personnellement dans ma vie, mais... surtout au niveau de l'histoire, métaphoriquement, elle en dit beaucoup sur les personnages, sur la société et tout ça.
Alors c'est une espèce, je reprends les mots de l'éditeur, hein, c'est pas de moi, espèce grimpante de grande taille aux racines aériennes. Son nom scientifique Monstera proviendrait de l'aspect inhabituel de ses feuilles trouées et démesurées. Il y a que moi qui entends monstre quand on dit Monstera.
Et non,
ça qui vous a plu, cette sonorité ?
Bah oui, clairement. c'est pas une plante monstrueuse, mais
l'histoire non plus n'est pas monstrueuse.
Allons savoir
mais...
pourquoi ça s'appelle une Monstera d'ailleurs. Mais il y a quand même ce rapport, oui. Pour moi, Monstera, le monstre, cette idée de monstre, ça se voit sur la couverture, est liée à Gabriel, forcément, et du coup à tout ce dont Gabriel dans tout ce dont il est impliqué, on va dire, dans la société. Donc pour moi, c'est vraiment Gabriel, la société, et tout ce que la société nous montre et veut qu'on soit. Donc c'est, pour moi, le monstre, c'est ça.
C'est marrant, c'est que vous venez dire montre aussi.
J'ai dit montre,
tout ce que la société nous montre, monstre. Hein. Et voilà, il y a deux raisons de l'appeler Monstera.
Il y a plein de raisons, voilà.
Monstera, c'est un peu l'histoire du mannequin malgré lui. On peut dire ça comme ça, Gabriel ?
Ouais,
on connaissait le médecin malgré lui chez Molière, vous avez inventé une variation.
on peut dire ça.
Pour vous poser la question autrement, qui est Gabriel ? Comment vous le présenteriez ?
Pour moi, Gabriel, c'est un peu... Toute personne dans le monde dans lequel on vit, pour moi, c'est un peu tout le monde. C'est un peu...
C'est l'homme moyen.
En étant Gabriel, donc une personne qui est quand même privilégiée dans la société, Ouais, c'est super dur, je me perds un peu.
Je vais vous aider. Il est mannequin, il est, en fait, non, d'abord il fait du skate. Alors j'ai appris qu'on disait plus du skate depuis au moins 35 ans, donc ça donne une idée de mon âge.
Ah non, on dit quand même du skate, c'est juste une autre discipline.
Ah pardon, alors lui il fait du longboard.
Il fait du longboard, ouais. C'est un skate mais plus long.
Il a une vie plutôt tranquille.
Il a
quelques petites galères d'argent.
Il a une vie de jeune, je pense, dans la ouais, c'est un jeune qui galère un peu au niveau de l'argent, qui essaye de trouver des buts dans la vie, qui a des convictions, qui a des
ouais,
idées,
qui est militant,
il est pas... et qui est quand même emprisonné par la société, quoi.
Et il lui arrive quelque chose d'incroyable, c'est qu'il est casté sauvagement. Alors, je ne sais pas si ça, ouais, on dit ça encore.
Casté sauvagement, ça fait un peu...
Bah oui, mais c'est une expression qu'on utilisait à une époque. C'est-à-dire qu'il est en train de faire du longboard au bord de la Seine, si je me souviens bien, au début du livre. Et puis, il y a des gens qui passent et qui se disent « Ah ben lui, il a un physique intéressant et s'il devenait mannequin. »
Ouais, c'est ça. Et c'est passé exactement comme ça, même.
Et ça, c'est ce qui vous est arrivé, donc.
C'est ce qui m'est arrivé, ouais. Je sais plus ce que c'était la question à la base.
Moi non plus, mais c'est pas grave. On est là. On n'est pas là pour eux. On n'est pas dans un commissariat de police. La question, c'est de savoir qui était Gabriel.
Oui, c'est pour moi, toute personne à qui on propose d'être mannequin, c'est quand même hyper séduisant, quoi. Déjà pour l'ego. On propose d'être mannequin, ça veut dire que t'es quand même quelqu'un de beau, d'accepter pour tout le monde, t'es un peu un modèle, on appelle ça des modèles, hein, pour le coup. Financièrement, c'est trop bien. Donc,
ça c'est vrai ?
Ça c'est vrai. Non. Ça c'est vrai, oui, c'est hyper confortable à tous les points. Donc moi je...
C'est tentant, quoi.
C'est hyper séduisant, quoi.
C'est pas l'île de la tentation, là, c'est l'argent de la tentation.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est que même si, comme Gabriel, on n'a pas d'argent, et on a des convictions, n'importe quelle conviction qu'on a, quelque chose qui va au-delà de nos convictions, mais qui peut nous rapporter de l'argent et qui peut nous sortir un peu de la merde, let's go. Et puis en plus, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est trop bien comme situation, quoi.
Il y a plusieurs ambiguïtés dans votre récit, et là vous en parlez déjà un peu. C'est que d'un côté vous reproduisez l'omniprésence de la publicité, des marques de luxe qui sont partout dans la ville, que Gabriel et ses amis n'aiment pas vraiment parce qu'ils sont militants, on peut dire, allez, de gauche, je sais pas comment les définir, ils sont anticapitalistes.
Ouais, je pense, ouais, c'est une idée, hein.
et lui en même temps il accepte d'aller dans ce monde là
ouais.
Et on n'a pas l'impression que ça lui pose de problèmes, ou alors c'est peut-être intérieur, c'est peut-être plus...
Eh ben en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que, comme je disais, c'est tellement séduisant et c'est tellement un truc qui nous booste notre ego qu'on devient un peu aveugle, quoi. Que ça nous aveugle un peu, qu'on est un peu dans la folie du truc et en fait, on met de côté tout le reste.
Mais Gabriel, il est jeune aussi. J'ai envie d'être indulgent avec lui. Il a quoi ? Il a 20 ans.
Mais oui, c'est...
À 20 ans, on a le droit de pas être complètement construit et d'être très...
Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un peu monsieur tout le monde. C'est qu'on peut pas lui en vouloir non plus, quoi.
Vous l'en voulez pas ? Je parle au personnage, hein, pas à vous. Hein.
Non, je lui en veux pas, non. Non.
Vous le comprenez ?
Je le comprends complètement. Et je suis juste trop content qu'il ait changé d'avis.
Mais ce qu'il a aussi, c'est qu'il est aussi très emblématique. Vous dites c'est Monsieur Tout-le-Monde, mais il est aussi Monsieur Tout-le-Monde parce qu'il résume toutes nos contradictions. Non, il est, comme disait, il est contre, mais il est tellement contre qu'il finit par se faire séduire.
Ouais, pour moi, c'est un miroir de la société, tout simplement. De cette espèce de schizophrénie qu'il y a maintenant... Entre ce dictat de l'apparence, en fait, qui prend le dessus sur absolument tout le reste. Mmh.
Mais alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu vieux, c'est une vieille chanson d'Alain Souchon qui s'appelle Foule Sentimentale. Il y a un peu de ça dans votre livre, finalement. Et alors, lui, à l'époque, dans la chanson, je parlais de nom que personne ne connaît, Claudia Schiffer, plus personne ne sait. Est-ce qu'on sait encore qui c'était ? Un mannequin, non, vedette d'une maison qui était vraiment l'incarnation de la beauté dans les années 90-2000, je pense, plutôt 90. Et dans la chanson, il dit à un moment, on nous Claudia Schiffer pour dire on devient tous des modèles extérieurs à nous-mêmes. C'est un peu ça la vie de Gabriel. Il pourrait dire on nous Gabriel, quoi. Lui-même, il ne sait plus très bien qui il est au bout d'un moment.
Ben, c'est ça, en fait, il se conforme à un idéal de beauté qui n'est pas lui et qui est difficilement atteignable. Et qui est atteignable, mais à quel prix, quoi ?
Normalement, je ne pose jamais de questions sur la vie privée des gens parce que je considère que je ne suis pas psy-psy. Mais vous, quand même, puisque vous dites que c'est une autofiction, il faut que je retrouve le mot parce que j'aime bien. Une autofiction, j'ai oublié, bon, c'est pas grave.
Autofiction, c'est...
Ah oui, mais il y a un autre mot qui va avec un adjectif qui est super.
Percutante.
Oui, parce que c'est une autofiction percutante. Vous avez quand même des bons souvenirs de ces moments-là dans votre vie ? Même si on comprend bien que dans le livre, ce n'était pas ce que vous vouliez, mais il y avait quand même des bons moments.
Oui, bien sûr. Comme je fais que de répéter depuis tout à l'heure, c'est tellement.
Ah, je suis désolé.
Non, c'est moi qui me répète parce que j'ai peut-être que ça à dire, je sais pas, mais. Mais pour quelqu'un comme Gabriel qui n'a pas confiance en lui de base et qui est un peu timide et qui est anxieux, etc., c'est un peu une confirmation, une validation de lui-même et du coup, bah, il va pousser pour être comme ça et en fait, il va s'éloigner complètement de qui il est vraiment.
Alors, ce qu'on découvre en vous lisant, c'est à quel point c'est compliqué d'être modèle, parce que vous dites il valide son ego et ça l'aide, mais il doit faire des efforts. Il y a quand même cette remarque d'un directeur de casting qui lui explique qu'il doit se muscler. Alors, moi, j'ai découvert qu'il faut avoir des abdos, mais pas des pectoraux, parce que les pectoraux, c'est moche.
C'est plus à la mode.
C'est plus à la mode, voilà. Donc, c'est fini. Puis, il y a un autre moment où il y a un gars qui a des poils sur les épaules, et là, lui, il passe un sale moment aussi. C'est aussi violent que ça ?
Ouais. C'est pour moi... pour moi, non. Enfin, comme je l'ai ressenti, t'arrives, t'es un objet, t'es plus quelqu'un, t'es quelque chose qui va servir à mettre en valeur une marque. T'es un peu considéré comme un cintre, quoi. C'est un peu l'idée, et en fait, même si ça va être camouflé par de la gentillesse et par je sais pas quoi. On va te demander de sculpter, de te modeler comme ils le veulent et au détriment de tout parce que enfin
oui parce que je raconte l'histoire des abdos pas des pectoraux. Bon, j'ai ni l'un ni l'autre, ça doit être pour ça que je sais pas trop bousser, mais il y a même l'histoire des jambes, c'est qu'il faut pas avoir des jambes trop musclées, donc il faut arrêter de faire du longboard parce qu'il y a le risque que la jambe soit trop musclée et il doit aller faire un défilé pour une grande marque qui veut des corps les moins marqués possible, ce que j'ai compris.
Ce qu'il y a, c'est que l'idéal, le canon de beauté en tout cas actuellement et depuis pas mal de temps maintenant, mais c'est le canon de beauté, il change au fur et à mesure des époques, mais en tout cas actuellement, c'est un corps qui est très grand et très fin, et demande un petit peu de muscle pour être sec. On les voit, mais en même temps, on n'en demande pas non plus énormément. Donc oui, c'est des jambes très fines. Moi qui faisais du longboard, j'étais assez musclé des jambes, mais c'était trop. C'est vraiment, tu deviens de la pâte à modeler et qu'on va sculpter, quoi.
Vous avez un dessin qui est terrible, hein, parce que là parce qu'on en parle, parce qu'il faut quand même, je sais même pas si j'ai dit que c'était un roman graphique, si j'ai dit que vous étiez bédéaste au début, c'est un roman graphique, mais je trouve qu'en une image, vous dites tout à un moment, en un dessin, c'est quand on voit le kebab qui tourne. Vous vous comparez quand même à un kebab qui tourne. Enfin, vous comparez Gabriel à un morceau de viande qui tourne sur sur une pique. C'est terrible. Hein.
C'est terrible parce que on se sent vraiment objet. On commence à avoir tous nos défauts. On voit tout ça parce qu'en fait, on n'est pas considéré. Un kebab un peu gras. Qui tourne.
J'ai du mal à imaginer que vous avez été gras un jour, mais bon.
Je dis pas ça. Je dis par rapport à tout ce qu'on peut nous faire entendre en fait. Je sais pas comment dire, mais ouais, je vais m'arrêter là.
c'est l'histoire de Gabriel, mais c'est aussi l'histoire de Lina. Moi, je trouve que vous disiez tout à l'heure que Gabriel c'était Monsieur Tout le Monde, mais je trouve que tous les deux ils sont surtout un jeune couple moderne. On a l'impression de vous croiser souvent dans la rue quand on s'y promène, quand on voit des jeunes. Donc il y a quelque chose que vous arrivez à capter de l'air du temps. Alors Lina, je ne sais pas si on peut dire ou pas ce qui lui arrive. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je serais pour qu'on le dise pas, mais si vous avez envie, allez-y. C'est vous qui décidez.
Moi, je pense que c'est quand même important de dire que Lina. Lina, elle souffre de troubles alimentaires. Moi, je voulais un peu avoir un avis, un angle de vue différent sur comment les femmes vivent tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, dans notre société, ce diktat de l'apparence. Et parce que moi, je l'ai vécu par mon expérience, mais en principal, c'est les femmes qui le ressentent beaucoup plus que les hommes, parce que le corps de la femme, il est idéalisé, mais encore plus, il est encore plus un objet, en fait. Et les troubles alimentaires, de manière très, très, très générale, c'est les femmes qui le vivent.
Mais quand tout ce que vous disiez tout à l'heure sur les hommes mannequins, sur donc vous, ce que vous avez connu quand vous étiez modèle, ouais. C'était pire pour les filles avec qui...
Ah oui, la pression, elle est encore pire.
Parce que la concurrence est encore plus forte, parce qu'il y a plus de filles qui veulent le faire. C'est une question que je me posais.
Parce que le corps de la femme est beaucoup plus sexualisé et beaucoup plus vendeur. Et du coup, la pression est beaucoup plus grosse, quoi. Elle est beaucoup plus... On demande beaucoup plus de choses. L'idéal du corps féminin, il est encore plus compliqué à atteindre, en fait. On demande un corps qui est grand, très fin, encore plus fin que les hommes, mais quand même avec des formes. Enfin, c'est complètement absurde.
Et il y a des jeunes femmes donc, qui vont peut-être trop loin. Mais alors, ce qu'on découvre aussi, si on ne connaît pas ce monde-là, ou si on est un peu plus âgé, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a des pubs YouTube qui expliquent... alors là, c'est aux garçons que, en fait, si tu n'as pas de style, c'est parce que tu n'as pas la bonne vie, quoi, et qu'il faut que tu changes ton mode de vie. Ouais.
Tirée d'une vraie vidéo, d'ailleurs.
Elle est terrible, celle-là aussi. Hein. Ouais. Je ne sais plus quoi, c'est le gras, c'est 40% de génétique, mais 60% de mode de vie. Ouais. Donc, si tu n'es pas beau, c'est de ta faute.
C'est ça.
C'est très, très cool.
Et c'est, pour moi, c'est le message qu'on donne tous les jours dans la gueule, qu'on a absolument partout, que ce soit dans la pub, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les réflexions que des hommes peuvent faire. Enfin, c'est partout.
Et comment vous aviez un rejet par rapport à ça avant, ou c'est le fait, c'est la question que je vais vous poser, parce que moi aussi je m'y perds, est-ce que c'est le fait d'être passé par ce monde-là qui vous l'a fait réaliser, ou vous aviez déjà conscience de ça?
C'est des choses dont j'avais déjà conscience, que j'ai complètement effacé de mon esprit, parce que j'avais l'impression que ça me faisait du bien. Et au bout d'un moment, ça te revient dans la gueule. C'est compliqué, mais...
Et en fait, il y a eu, vous avez cru que ça vous a aidé, et puis finalement, il y a eu un retour, comme un espèce d'effet retour encore plus fort, comme on dit, chercher le moins boomerang.
En fait, ça aide à la surface. Ça aide clairement à la surface, mais en fait, à l'intérieur, c'est pourri, quoi.
On écoute un peu de musique, allez. Je vous propose qu'on écoute un peu de musique.
Des jours tu dérives.
Jusqu'à... Ah, j'ai coupé, je suis désolé, j'ai chanté Alain Chamfort avec Audrey Marnay. Ça s'appelle Manureva, c'est une reprise.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
Et on est toujours avec Simon Roux, auteur de Monstera chez Virage Graphique. Et puis on cite l'autre, hein. On va citer votre deuxième... Alors vous dites roman graphique ou BD, moi je sais jamais, je suis toujours embêté avec ça.
Pour moi, ma première Orcade, c'est une BD. Et là, on parle plutôt de, pour Monstera, plutôt d'un roman graphique.
Donc c'est un roman graphique qui est une autofiction percutante. Et on synthétise tout là maintenant. Justement, vous avez écrit les deux en même temps. Je me suis demandé comment vous aviez fait, parce que j'ai lu un peu partout que l'autre je ne l'ai pas lu. On ne va pas mentir, hein, donc Orcade, je ne l'ai pas lu. C'était plutôt quelque chose d'humoristique. Ce Monstera n'est pas du tout humoristique.
Non.
Donc vous écriviez les deux en même temps, vous en avez écrit un puis l'autre. Il y en avait un qui vous servait de récréation quand vous étiez trop pris par la noirceur de celui-là.
Non, je les ai pas du tout fait en même temps. Orcade, c'était donc mon premier que j'ai terminé il y a maintenant longtemps, parce que c'était mon projet de diplôme quand j'étais en études. Donc je l'ai terminé il y a bientôt 3 ans, je crois, maintenant. Et c'est juste que ça a pris du temps à être édité, etc. Mais je l'ai pas du tout fait en même temps. Mais il y avait quand même ce truc de après quelque chose de drôle, d'absurde, que vraiment c'était de l'absurde. Qui a un peu ni queue ni tête, c'est le principe de l'absurde.
Souvent.
J'avais envie de...
Enfin, en même temps, souvent, ça n'a ni queue ni tête, mais au fond, quand on réfléchit,
il y a toujours un sens.
Il y a quelque chose. Oui. Faut se méfier. Et donc, vous aviez envie de raconter une histoire plus classique.
Et en fait, j'avais des choses à dire, et j'avais envie de raconter de vraies choses. Enfin, j'avais envie de quelque chose de plus sérieux et de m'exprimer. Parce que j'ai du mal dans la vraie vie, donc... Vous voulez faire une BD.
Est-ce que, mais justement, puisque vous parlez de ça, est-ce que il y a tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans votre récit, mais il y a aussi, il y a encore une autre scène moi qui m'a frappé, c'est cette scène où Gabriel va pas très bien, Léna le console, et puis lui à ce moment-là, lui ce qu'il voit, c'est qu'il a un avertissement sur son portable qui pour une campagne de marque, et il écoute même plus ce qu'elle lui dit. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez envie de dire. Le rôle de la connexion, de cette forme-là de validation, de, comme vous disiez tout à l'heure, de quelle manière de se regonfler l'ego à coup de like.
Ouais, bah pour moi, dans cette scène, je voulais vraiment montrer que tout passe après l'apparence, après bah, du coup
son... Parce que là on a l'impression qu'il n'arrive même plus à vivre le moment présent, le pauvre.
Et oui, il n'y a plus de moment présent, il est complètement aveuglé, les troubles de Lina il les voit plus, enfin il les voit pas, il voit plus rien, et il est complètement focalisé sur bah, comment lui il est, et ses castings, ses shootings, dès qu'il a un shooting qui sort, il s'apprête, enfin il va le voir dans la rue, il est complètement omnibulé par ça quoi.
On va quand même parler un petit peu de votre dessin. Je vois le temps qui tourne. Vous avez fait un choix restreint de couleurs. C'est du noir et du violet, puisque le blanc, c'est le blanc de la page que vous utilisez. C'est quoi l'idée du violet comme ça? Moi, j'adore. C'est une de mes couleurs préférées, donc je suis très content.
Déjà, je voulais quand même qu'une seule couleur parce que c'est du roman graphique. Ça doit se lire assez, de manière assez fluide. Ça doit être quand même quelque chose qui... Ah, je saurais pas comment dire vraiment, mais je trouvais que ça se prêtait plutôt bien en fait à un récit assez long comme ça. Et moi j'aime bien le contraste, même dans l'histoire, dans le scénario, il y a jouer avec le contraste, le paradoxe, tout ça. Et ben, je pense que c'était bien aussi dans la couleur de montrer ce contraste qu'il y a, des couleurs qui sont bien tranchées. Moi, ça me parlait par
c'est
rapport
C'est très anguleux, ça répond assez bien au côté très anguleux du dessin. Parce qu'effectivement, ils sont tous très minces, ils ont tous des visages très affûtés. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, c'était un peu l'idée. Ouais.
Puisqu'en plus, parce qu'il y a ça aussi, j'ai appris qu'il faut pas. Là, il faut avoir des pommettes hautes.
Il faut avoir des joues creusées.
Ouais, pour être un homme, un vrai. C'est ça, hein.
C'est l'idée.
C'est ça, hein, j'ai bien compris. J'ai pris très cher en lisant ce livre, mais j'ai rien dit ce qu'il faut. Mais vous êtes toujours modèle, vous?
Ah non. Non.
C'est fini. ça n'a pas été une vocation.
Ça n'a pas duré, non.
Le dessin, oui, par contre.
Ça, on est parti sur une lancée, là. Je pense que ça ne s'arrêtera pas.
Moi, j'ai été voir vos travaux sur Instagram et j'ai vu que vous employez... Parce que là, a priori, vos deux premiers livres, parce que, alors celui-là, je l'ai vu en entier, et l'autre, c'est pas très coloré. J'ai vu aussi que vous faisiez des choses plus colorées. Et vous avez l'air d'être un sacré coloriste. Vous avez envie de faire de la couleur pour la suite? Tout votre travail que vous avez mis sous la rubrique illustration... c'est sur votre site personnel. Je travaille.
Je le mette à jour, celui-là, quand même. Mais...
c'est sûr que... Votre biographie blablabla Simon est un peu succincte.
C'est vrai, il a écrit ça.
Non, mais vous avez envie de travailler plus la couleur?
Déjà, je suis trop touché que vous disiez ça, parce que la couleur, c'est pas du tout mon truc à la base. Je vais pas mentir, là, sur celui-là, je me sentais pas de faire 200 pages de couleurs, de 4 couleurs, tout ça. Donc il y a aussi de ça. Et là, après avoir fait du bleu, et beaucoup de bleu pour mes deux BD, je pouvais plus voir de bleu, cette couleur j'en peux plus. mais du coup j'avais envie de faire des choses plus... C'était quand même important, c'est trop bien la couleur, ça donne une dimension complètement autre à un dessin, et il fallait que je le fasse, et maintenant je commence à m'amuser, je commence à trouver des petites astuces de couleurs... Mais c'est pas encore trop ça, mais j'essaye.
Gabriel dit un moment dans mon stéra, je le redis une dernière fois, si on ne portait pas attention au regard des autres, on montrerait la meilleure version de nous-mêmes. Ça vous obsède à ce point-là, le regard des autres?
Ouais.
Ça va, et si on vous écoute? Les gens vous écoutent, ça va si on vous écoute?
C'est la même chose, parce que ça reste... qu'est-ce que je vais donner comme image aux gens? Ça reste une image. Mais ouais, plus je veux faire bien, plus je veux montrer que je suis bien et que je suis... plus je vais être au maximum de mes capacités, moins je vais l'être.
Bon, écoutez, on espère que vous allez réussir à vous libérer, puis que vous allez continuer de nous faire des très beaux romans graphiques percutants, des autofictions percutantes et beaucoup de nonsense. Merci beaucoup d'être passé par le studio.
Merci à vous.
Simon Rour, je rappelle que vous êtes l'auteur de Monstera chez Virage Graphical, et La Relève s'était préparée, présentée par Christophe. La réalisation était assurée par Pablo. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de Radio Campus Paris à la rubrique La Relève. En attendant, vous pouvez écouter toutes les premières depuis plusieurs saisons. Allez, c'est le programme musical de Radio Campus, et à 19h, la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Bonne soirée.